Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à tous dans Résonance. On en parle aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Résonance. La Belgique bénéficie d'une incroyable vitalité de créativité artistique qui s'adosse à une tradition d'impertinence et de provocation. C'est ce que nous avions envie d'approcher d'un peu plus près, car cette vitalité, cette auto-dérision de nos amis belges, cette forme d'humeur rosse parfois, nous semble être un espace vivifiant, un miroir pertinent pour interroger nos propres attitudes, notre quotidien, notre manière d'être et alimenter notre réflexion. Une irrévérence, une insolence, une impertinence, une dérision. Des nuances entre les mots, certes, mais quand même un état d'esprit qui s'illustre, qui s'exprime à travers de nombreuses expressions et réalisations artistiques. Une manière aussi de chercher à dépasser les clichés habituels, les visions folkloriques, le regard réducteur que nous impose souvent le divertissement télévisuel ou le discours publicitaire vis-à-vis de nos amis belges. Diderot, d'ailleurs, écrivait: l'éclat de rire n'est pas un simple soulagement sonore. Il est l'instrument d'un bouleversement de l'ordre établi, réveille les désirs de rupture à l'égard des puissants. Fin de citation. Donc un regard décalé grâce à nos amis belges sur le monde et sur ceux qui les gouvernent, sur les humains, nos semblables, et sur les représentations grandes ou petites de la vie. L'irrévérence, l'insolence, l'impertinence, l'autodérision, un état d'esprit qui procure une grande vitalité à la création artistique belge. Trois invités dans cette émission. Tout d'abord au téléphone, dans quelques instants, depuis Bruxelles, Zoé Jadoul. Elle enregistre les chants bouleversants de ceux que l'on n'écoute jamais pour les inspirer à devenir fiers de leurs différences. Puis nous aurons un échange téléphonique avec Denis Boss, et compositeur, également depuis Bruxelles, compositeur d'origine française. Il a choisi depuis plusieurs années de développer son travail de créateur et de vivre en Belgique. Notre troisième et dernier invité, Baudouin Dejart, compositeur que nous aurons également au téléphone depuis le festival Charleroi Danse en Belgique. Et pour lui, une œuvre musicale peut-elle répondre à la radicalisation ambiante? Elle peut pour le moins rapprocher les communautés et les diversités. Elle peut questionner la liberté d'expression, favoriser la création et permettre la mise en place d'un espace commun d'échange et d'épanouissement. C'est le pari du compositeur belge Baudouin Dejart. Résonance sur Radio B, l'irrévérence, l'insolence, l'impertinence, l'autodérision, un état d'esprit qui procure une grande vitalité à la création artistique belge. Et pour en parler, notre première invitée, Zoé Jadoul. Bonjour Zoé.
Bonjour, c'est Zoé Jadoul.
Jadoul, bonjour Zoé. Tout va bien?
Oui, ça va très très bien.
C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans Résonance et dans cette émission. Alors, j'évoquais justement dans l'introduction de celle-ci que l'irrévérence, l'insolence, l'impertinence, l'autodérision, peut-être qu'il y a finalement une espèce de tradition justement d'impertinence et de provocation qu'on retrouve en Belgique, et peut-être que celle-ci, elle peut être aussi parfois un peu caustique, parfois c'est l'autodérision un peu spontanée, mais que tout cela lui donne, nourrit en tout cas une certaine vitalité aux différentes formes de création artistique dans votre pays. Est-ce que vous seriez un peu d'accord avec cette vision des choses, Zoé Jadul?
J'ai l'impression que vous dites toujours Zoé Jadul.
Pardon?
Tu dis toujours Zoé Jadul, c'est ça?
J'ai dit
tu Jadul. M'adules.
Comment? Pardon?
Non, j'entends toujours que tu dis Zoé Jadul.
Et oui.
Alors je me demande si tu m'adules.
Et c'est Jadul, pardon, excuse-moi.
Oui, mais écoute, je suis très honorée que tu adules.
Mais je t'adule.
Zoé Jadul.
Tout cela est parfait.
Eh bien, ben oui, comme tu l'entends, voilà. En Belgique, il y a des militants anti-rabat-joie qui sont assez efficaces.
J'ai l'impression, absolument. Et je trouve qu'effectivement, il y a, et en tout cas, si on regardait par rapport à notre côté français, enfin, en tout cas, il y a quand même, voilà, cette pertinence et d'impertinence, si je peux dire, voilà, je rebondis dessus, qu'on trouve quand même beaucoup, et que du coup, voilà, ça nourrit une certaine vitalité de plein de gens. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, comme tu dis, qui peuvent, voilà, avoir aussi leur manière d'être assez dogmatique dans les choses, mais d'autres quand même bousculent un peu tout ça, tout cet ordre établi, en tout cas.
Oui, oui. Que te dire? Ben, écoute, pour ma part, c'est une mission sur Terre, ouais. de travailler sur la problématique des rabat-joie. Mmh. Et pour ce faire, j'ai choisi de travailler avec des personnes qui sont spécialistes dans l'intelligence émotionnelle et dans un sens de l'humour naturel qu'on peut retrouver chez les personnes handicapées mentales.
Voilà, par exemple, hein, parce que dans tout ton parcours, il y a aussi de contribuer, je dirais, à faire reconnaître la parole de l'autre, non pas comme une parole bruiteuse, mais comme une vraie parole, si je pourrais dire aussi ainsi.
Voilà, d'habitude, on fait des émissions radio où c'est des gens qui prennent la parole à la place des personnes handicapées.
Oui, oui.
Et là, j'ai choisi plutôt de leur donner la parole, donc de leur apprendre à faire des émissions radio. Et c'est eux qui gèrent les sujets de reportage. Et ils font des reportages sur notre société en tant que journaliste.
C'est ça. Ça fait déjà un petit moment, hein, que tu mènes ce travail. Depuis combien d'années tu as commencé un peu ce travail avec ces personnes, justement?
Ça fait 5 ans que j'ai remarqué que c'était des dangereux journalistes intrépides. Et la première fois que je l'ai remarqué, c'était un reportage dans un musée qui s'appelait le musée de la franc-maçonnerie,
ouais.
qui est en Belgique.
Oui.
Et on est parti avec une équipe, notamment un monsieur qui s'appelle Eddy, mm-hmm. et qui a interrogé le président du musée en lui disant tout le temps qu'il supposait qu'il était ministre. Et au lieu de dire le musée de la franc-maçonnerie, il disait le musée de la poissonnerie. Et toutes les minutes, il lui demande où on est. Et le président du musée, qui est un monsieur assez gentil,
oui.
me lui répond vraiment très avec beaucoup de patience. Et il raconte en même temps toute l'histoire de la franc-maçonnerie belge. Donc c'est en même temps culturel et en même temps on apprend des choses en s'amusant avec Eddy, qui est un bon vivant, avec un accent bruxellois, qui lui pose des questions sur la mort, sur ce que c'est le musée de la franc-maçonnerie.
Et du coup, ça va donner une émission régulière, hein, et qui est les rouspétards, hein, finalement. Hein, qui...
Voilà, en fait, ils se sont rendus compte qu'on les prenait toujours pour des gens qui se laissaient faire. Et ils ont choisi un nom assez évocateur.
Je trouve.
pour rouspéter. Voilà.
Et du coup, ça comprend combien de personnes, ces rouspétards, qui travaillent régulièrement avec toi?
Donc, ils sont au moins 10. à chaque fois. Personnes. Donc c'est vraiment, le studio est rempli de...
C'est ça.
Salle comble. Et tous les vendredis, ils se regroupent pour faire une émission radio, soit en direct, ou maintenant on a un studio mobile, on peut aller chez les gens.
Donc ça, c'est super, effectivement. Effectivement, ça, ça doit être aussi très intéressant d'avoir cette possibilité-là.
Exactement. Donc ça change. Ça change. Mais ce qui est bien en direct, c'est qu'on peut faire des concours et les auditeurs téléphonent. Et c'est quelque chose d'assez, d'assez chaleureux.
Mais oui. Mais oui. Et donc, du coup, on peut aussi dire que cette émission, elle est aussi diffusée après par rapport à Radio Campus aussi.
Qui est... la radio de l'université belge.
Voilà.
Qui est à Bruxelles.
Et ça qui fait un super travail aussi. Et comment tu as rencontré aussi cette équipe justement de Radio Campus ?
Avant, je travaillais, au début, j'étais chanteuse, mais je savais pas gagner ma vie parce que j'habitais dans une gare où je devais pas payer de loyer. Et donc, j'ai un peu trouvé un métier qui ressemblait, c'était de faire des émissions radio.
Ouais.
Et mes débuts, c'était dans un centre culturel avec des enfants.
C'est ça.
Hmm. Et donc, les enfants, c'était sympathique, mais ils se tapaient toujours dessus. Et alors, j'ai un peu, pour me reposer, j'ai
dit
charmant handicapé mentaux qui avait plutôt la science de bien s'entendre ensemble. Et j'ai pu me reposer grâce à eux et faire des émissions intéressantes sur notre société.
C'est ça. Et quand tu évoquais justement les enfants, c'était justement une série d'émissions réalisées, Radio Kiki, la radio des enfants qui se demandent qui est qui. Hein ?
C'était l'idée, c'était de te faire parler, des personnes qui utilisent souvent la langue de bois.
Mmh.
Et avec les enfants, ils n'osent pas parce que c'est un peu ridicule.
Ouais.
Et donc, ils expliquaient mieux comment fonctionne la société.
Et là, ça doit être passionnant, hein, en même temps, de changer. Bon, tu as eu tout ce travail avec les enfants, ce travail avec les personnes en situation de handicap, et j'imagine qu'ils doivent bousculer particulièrement nos interlocuteurs, en tout cas les surprendre quelquefois par leur questionnement, leur manière de rebondir par rapport aux propos des uns et des autres. Quand tu citais le directeur du musée là, il y a quelques instants, tout ça doit aussi provoquer d'autres regards, d'autres manières. Un petit peu de porter le regard aussi sur ces personnes.
Oui, parce qu'ils parlent d'eux. Ils ne parlent pas que de leur activité professionnelle. On
C'est
leur
ça.
Demande s'il y a des questions beaucoup plus personnelles. Donc on rencontre vraiment la personne dans ses retranchements, parce que pour un monsieur qui était président de... par exemple de la franc-maçonnerie, qui était directeur d'aéroport, de banque, etc. Il est totalement dépourvu d'armes par rapport au monde de la joie de vivre. Et c'est un peu un retour à la spontanéité qui n'est pas son fort. Ça fait un peu l'effet comique.
C'est ça. Et puis aussi, tu conduis aussi des émissions de radio dans le même état d'esprit, mais avec un certain nombre de femmes qui se trouvent aussi en prison. Et là aussi, il y a tout un travail que tu mènes.
Oui, voilà. Donc, j'ai un peu repéré toutes les personnes qu'on n'entendait jamais à la radio.
Oui.
Et notamment les gens qui sont incarcérés.
Mmh.
Et pendant 2 ans, j'ai fait un atelier toutes les semaines à la prison des femmes de Bruxelles.
Mmh.
Où les dames, bah, même chose, prenaient en main une émission radio qui a été diffusée sur la radio de l'université.
Et ça a été facile de mettre en place un projet comme celui-ci, parce que c'est pas simple quand même, comme prise de parole, liberté de parole de ces femmes à l'intérieur d'une institution qui est plutôt là pour justement les maintenir hors du cadre ordinaire. Ça peut dû être simple forcément d'avoir cette liaison, de mener un projet comme celui-ci.
Disons que je suis assez
persuasive,
pugnace.
Ouais.
Une fois qu'on arrive à rentrer dans le monde d'une prison, il faut essayer de... On met un pied dans la porte, si tu veux.
Ouais, ouais.
Et c'est pas facile parce que... parce qu'une prison, c'est pas quelque chose de très ouvert.
Mmh.
Mais l'idée, c'est que beaucoup de gens ici en Belgique font de la militance pour que les prisons changent d'état d'esprit.
C'est ça.
Et donc, j'ai travaillé en collaboration avec des institutions qui travaillent avec les prisonniers. Et c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en route un atelier dans une prison. Notamment, le nom de l'association, ça s'appelle l'ORS, l'Office de réadaptation sociale. Et comme son nom l'indique, ils font du bon travail en faisant des émissions de radio en prison.
Ouais, c'est génial. Et ça, ce projet que tu as conduit pendant 2 ans, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui, même des gens ont pris le relais ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est arrêté ou...
Alors, à l'heure actuelle, ça s'est arrêté.
Ouais.
Parce que c'était assez épuisant.
Oui, j'imagine.
Moi, je ne me rends pas compte quand je suis épuisée parce que je suis très volontaire. Mais ça s'est arrêté parce que mon contrat avec cette association s'est arrêté. Et donc là, j'ai d'autres projets.
Oui, j'imagine.
Je vais m'occuper plutôt des fous cette année.
Oui, tu peux nous en dire quelques mots justement alors, sur ces projets. Alors, qu'est-ce que tu envisages actuellement de faire?
Alors, il faut savoir que les personnes qui ont des soucis avec d'ordre psychologique, sont extrêmement créatifs. Donc, ils sont très doués pour la spontanéité, ils peuvent inventer des poèmes sans réfléchir. Écriture automatique, ils entendent des voix. Quand on entend des voix, c'est très radiophonique. On peut un peu rire de tout ça. Mais il faut savoir aussi que pour toutes ces personnes, l'outil de l'enregistreur est quelque chose qui permet de rencontrer des gens... qui sont un peu frileux. On fait des micro-trottoirs et dès qu'on a un casque et un enregistreur, les gens, ils n'ont pas peur parce que c'est cadré avec l'enregistreur.
C'est ça.
Ils savent très bien qu'on ne va pas les pourchasser durant des heures ou essayer de les suivre chez eux. Et ils racontent volontiers leurs impressions sur les sujets que les gens ont choisis.
Donc là, oui, du coup, avec cette équipe de Rouspetteur, vous allez aussi sur le terrain aussi comme ça, et ça provoque toutes ces nouvelles rencontres, et finalement, où les gens s'apprivoisent un peu, finalement, et osent un peu s'ouvrir aussi, finalement, dans cette rencontre et dans ce dialogue qui s'établit.
Disons que c'est au début de... Quand on apprend au début à faire de la radio, c'est la première chose qu'on fait.
Voilà.
C'est partir avec un enregistreur pour vaincre sa timidité et se rendre compte de tous les possibles pour rencontrer des cuidam, des gens
c'est ça.
Qui passent là par hasard. Et alors, ça réveille... Ça réveille le fait d'être sûr de soi.
Ouais, c'est ça.
On se sent plus. Dans la vie, ce qui est important, c'est de vaincre ses peurs. Et là, c'est vraiment un outil qui permet de vaincre sa peur. Les autres.
En tout cas, c'est chouette. Zoé, j'aurais voulu te proposer qu'on écoute justement ces enfants qui t'ont fatigué à un moment donné. Et un extrait, je ne sais pas si tu te rappelles de la leçon de la luge, par exemple, de cet extrait. Tu te souviens de cette émission ?
Des enfants aveugles qui faisaient de la luge.
Voilà.
Parfois, je cumulais
les difficultés.
oui, mais l'extase, évidemment, c'est de rencontrer quelqu'un qui est handicapé, enfant, fou, et je pense que... pour les enfants, c'est un peu plus dur, mais quelqu'un qui est en prison, qui est handicapé, chômeur, etc. Voilà, il faut cumuler.
Qui est une grosse dose d'humour aussi, d'envie d'impertinence, d'autodérision aussi également, hein.
Oui, je force un peu la main puisque c'est dans mon caractère.
Ouais.
Mais parfois j'ai beaucoup de problèmes avec les professeurs à l'école.
Et
ils
oui,
veulent absolument que les enfants paraissent plus ne fassent pas de faute de français ou disent des choses plus rationnelles. Parfois j'ai vraiment des soucis à pousser les professeurs à
laisser aller cette parole-là avec ce qu'elle sera.
Oui, parce que notre but, c'est de remonter le moral des gens qui vont mal. Donc les auditeurs, ils reçoivent des messages de joie de vivre et de spontanéité. C'est vraiment basé sur la spontanéité. Donc, dès que quelqu'un est rabat-joie et veut prouver quelque chose par rapport à son enseignement qui je sais pas, moi, qui dit quoi. Oh, bah, hein, bon, les professeurs sont souvent des gens un peu coincés.
Donc, je vais te remercier, Zoé, pour ce moment fort sympa, revivifiant, puisque c'est aussi un peu le but de notre émission avec nos trois invités. Tu es la première de nos invités. Tout à l'heure, nous allons recevoir au téléphone aussi Denis Boss, qui est compositeur, et puis Baudouin de Jarre aussi également, en fin d'émission. Donc, un espèce d'une première approche. On essaiera de le renouveler, d'ailleurs, si tu en es d'accord, de pouvoir te réinviter dans cette émission pour poursuivre un peu ce qu'on a commencé de découvrir dans ta démarche, dans ton travail et dans tout ce que tu inities là-bas sur place à Bruxelles. D'accord ?
D'accord, avec plaisir. Je. La rubrique des jeux.
Je. La rubrique des jeux. La rubrique des jeux.
Aujourd'hui, le son de luge, dans le vent glacé, des Ardennes, belges.
Alors ici, il y a beaucoup de vent, il y a de la neige, on est en train de jouer avec la luge. Et on s'amuse très bien. Pour faire de la luge, il faut, si on est à deux, se tenir comme il faut à la taille de l'autre. Oui, encore quelques conseils. Si vous voulez avoir de la sécurité, il faut être avec un adulte. Mais si on ne veut pas, on n'est pas obligé. Je préfère avec adulte. Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je m'entends très mal parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors, on s'amuse très bien et tout ça parce que tout le monde est en train de faire de la luge et si quelqu'un veut me donner quelques conseils, il peut. Pierre, est-ce que tu as des conseils à donner ?
Oui, alors déjà, bien s'asseoir au milieu de ta luge pour ne pas être déséquilibré. Ensuite, toujours être dans l'axe de la porte. Ne jamais aller de travers parce que sinon on se retourne. Et troisième chose, essayer de suivre les lignes déjà tracées au sol. Alors ça permet d'aller un petit peu plus vite.
Alors Laureline, est-ce que tu aimes être ici faire de la luge ?
Ouais.
Ça fait une sensation forte. Tu descends et tu vas de plus en plus vite, toi.
Il n'est pas encore descendu.
Moi, je veux bien réessayer avec l'enregistreur pour voir ce que ça fait. Ça fait bizarre d'avoir le micro sans se tenir. Alors, je vais remonter. Alors, je vais suivre la trace du traîneau. Je vais remonter. Et alors, je vais interroger les autres. Je vais remonter parce que je vais essayer de... En fait, je suis les traces du traîneau.
Résonance sur Radio B. Aujourd'hui, l'irrévérence, l'insolence, l'impertinence, l'autodérision, un état d'esprit qui procure une grande vitalité à la création artistique belge. Deuxième invité de résonance aujourd'hui, Denis Boss. Denis Boss qui est originaire de Bordeaux, où il est né en 1960. Et puis, il a choisi en 1989 de se rendre en Belgique, d'y vivre, d'y travailler. Sa musique est jouée en France, en Autriche, au Canada, en Belgique, par des ensembles ou solistes comme, on pourrait citer Musique Nouvelle, Proxima Centauri, Janus, Ensemble Vin, le Quatuor Danel, Aleph, l'ensemble Aleph, le Trio Bonacci, aussi le nouvel ensemble vocal, le nouvel ensemble moderne également. Donc, une multiplicité d'ensembles, de solistes interprètent la musique de Denis Boss. Et nous avions justement, lors de l'une de nos précédentes émissions, évoqué également avec lui la création de son opéra, La Lettre Volée, un opéra de chambre, d'après la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe, sur un livret de Pascal Notet, que nous avions eu aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission au moment de ce moment très riche et fort d'évoquer donc avec Denis Boss son opéra qui était créé en novembre 2017 dans le cadre du Festival Loop en collaboration avec Ars Musica et le Théâtre de la Balsamine à Bruxelles. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Denis Boss. Bonjour Denis Boss.
Bonjour.
Voilà, très heureux de vous accueillir à nouveau dans Résonance. Alors avec notre invité, il y a quelques instants, qui était au téléphone depuis Bruxelles, journaliste belge, on évoquait justement l'idée d'irrévérence, d'autodérision, d'impertinence, et que finalement un peu tout ça nourrissait quelque part aussi la création artistique belge. Alors j'avais envie de vous poser cette question en tant que Français, qui maintenant vivait bientôt depuis une bonne vingtaine d'années en Belgique, à Bruxelles et bien sûr dans ce pays. Seriez-vous un petit peu d'accord avec ce sentiment et cette vision des choses ?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Oui, en même temps, voilà, si c'était avec une différence avec l'esprit français, je dirais que c'est peut-être pas la même impertinence.
C'est ça. Oui. Gardons bien que quand même l'esprit français a son impertinence, sa pertinence aussi également, mais que du coup il y a peut-être un état d'esprit différent peut-être chez nos amis belges qui fait que du coup ça pétille différemment, si je peux employer un autre terme.
Oui, disons que ce qui est différent, je pense, c'est une plus grande acceptation des différences à tous les niveaux. Voilà. Ça, c'est une chose que, venant de France, c'est très frappante. Enfin, maintenant, j'en ai peut-être moins une sensation aiguë. Ouais. Mais en tout cas, en arrivant en Belgique, c'était vraiment très, très frappant, surtout que c'était, disons, comme un soulagement, je pouvais dire, de voir que finalement, on pouvait être accueilli.
C'est ça.
Sans trop de questions, sans devoir correspondre à certaines normes préétablies.
C'est ça.
Donc en Belgique, il y a une plus grande ouverture, je trouve, si on peut.
Est-ce que c'est ces éléments-là ou c'est des éléments indépendants qui vous ont conduit justement en 1989 à décider finalement de franchir, de passer la frontière et de vous installer en Belgique ?
Oui, non, c'était pas ces éléments-là parce que ça, je l'ai découvert en arrivant.
C'est ça.
Oui, non. Disons que il était nécessaire pour moi d'aller ailleurs, si je veux dire, de l'endroit où j'avais grandi comme en tant qu'étudiant. Voilà.
Il y avait un besoin d'air.
Oui, c'est ça. Et puis bon, il y avait aussi une invitation de la part de Jacqueline Fontaine à l'époque. Et donc, qui est une compositrice belge. Qui m'avait invité dans sa classe de composition, donc au conservatoire de Bruxelles. Donc à ce moment-là, donc ça c'était une des raisons. Mais au début, je suis seulement venu voir.
C'est ça.
Comment ça se passait.
Et là, du coup, ce que vous dépeignez il y a quelques instants, le fait de cette ouverture, le fait de cette diversité, c'est une des choses qui vous a séduit aussi en arrivant ou en découvrant un petit peu les manières d'être et de vivre à Bruxelles ou à Liège.
Oui, surtout à Liège, effectivement. Je trouve que c'était à Liège, on ressentait encore une grande effervescence à cause de la présence d'Henri Pousseur à l'époque. On avait l'impression là qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait, surtout à Liège, je dois dire.
C'est ça.
De l'enseignement dans le conservatoire, oui. Et le corps professoral aussi, à l'époque, était aussi, mais toujours, mais était très diversifié et très intéressant.
Est-ce que, justement, avec maintenant cette installation dans le temps, cette permanence pour vous en Belgique, vous sentez quand même que ces éléments premiers que vous avez sentis sont toujours aussi forts aujourd'hui, ou vous sentez qu'il y a l'altération, ou ça prend peut-être d'autres modalités?
Oui, non, je le ressens toujours, oui. Ça prend d'autres formes, évidemment, parce que les personnes ne sont plus les mêmes.
C'est ça.
Mais je le ressens toujours. Et je pense aussi que il y a une sorte de désorganisation, entre guillemets, qui est salutaire. Voilà, si je peux dire.
Il y a un désordre qui facilite d'autres ordres et qui, du coup, sont...
Oui, ça qui fait que certaines expressions peuvent trouver leur place, alors qu'elles ne pourraient peut-être pas le trouver dans des structures plus rigides. Oui.
Est-ce que là, vous sentez que, justement, ça contribue, quelque part, cette idée de désordre et de désordre dans l'ordre et de ce que ça provoque, ça a une influence forte encore aussi aujourd'hui sur les jeunes compositeurs, ou si en tout cas sur la création d'aujourd'hui en Belgique?
Oui, absolument.
Voilà. Il y a des hauts effets et des impertinences, là aussi, qui se font.
Encore dernièrement, j'ai été écouter un concert de Sarah Weary.
Oui.
Donc, c'est une jeune compositrice qui a travaillé à Liège, qui a étudié à Liège, et vraiment, tout simplement, elle fait des choses très personnelles avec beaucoup de liberté. Donc, je trouve que chez les jeunes, actuellement, il y a encore cette dimension-là, un certain esprit d'entreprendre aussi, de créer des ensembles, d'oser faire des créations sans avoir forcément une réflexion théorique derrière et un engagement.
Oui.
C'est assez simple, voilà. Il y a comme ça une vie quand même qui est assez intéressante au niveau artistique. Bon, là, je parle surtout de la musique, évidemment.
Bien sûr.
Mais on le ressent quand même dans la ville à Bruxelles, par exemple, c'est assez foisonnant.
C'est ça. Et vous sentez que c'est peut-être un des éléments qui est différent, si on essaye aussi de faire un petit parallèle avec justement la situation française. Ça vous semble un élément encore qui marque cette petite différence entre nos deux pays, par exemple?
Oui, disons que esthétiquement, par exemple, je trouve que les choses sont moins clivées en Belgique.
C'est ça.
Donc, par exemple... On trouve des compositeurs qui sont capables d'écrire des musiques dont on aurait du mal à déterminer l'esthétique. Alors qu'en France, des gens qui seraient dans cette mouvance-là seraient vraiment un peu isolés.
C'est ça. Hein,
si on n'est pas étiqueté d'une certaine
école, d'un certain réseau.
Voilà, alors à ce moment-là, on ne sait plus trop bien... Il y a des gens comme ça en France qui le vivent très bien.
Bien sûr, oui.
Mais on est marginalisé, quoi, il me semble.
C'est ça. Il y a plus un effet de marginalisation, effectivement, lorsqu'on est dans les antres, finalement.
Oui, parce qu'en France, je crois que la création contemporaine a été institutionnalisée. Et on peut davantage parler, finalement, de musique contemporaine en France qu'en Belgique.
C'est ça.
Au sens de pas de la musique d'actuelle, mais disons la musique du style contemporain, semble que elle existe surtout en France.
Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a une diversité, peut-être aussi, il y a des passerelles beaucoup plus grandes aussi à ce moment-là, sur le point de. Gardons l'élément musical, mais effectivement, on pourrait parler de sur le plan chorégraphique, théâtral aussi, visuel.
Oui.
Hein,
et aussi. L'activité théâtrale et chorégraphique en Belgique, c'est extraordinaire.
C'est énorme, il y a une vitalité là aussi très importante. Et les croisements et les passerelles sont d'autant plus nombreux, justement, entre toutes
Absolument,
ces disciplines.
Oui.
Et l'émulation, je dirais aussi également.
Je vois l'ensemble Ictus, qui est un ensemble formidable, mais qui monte des projets avec la danse, par exemple, qui sont inouïs. Donc avec un Teresa de Kersmacher, où, où là se passent des choses qui vraiment sont très représentatives de genre de rencontres qu'on peut trouver en Belgique.
Donc du coup, Denis Boss, on revient aussi, mais c'était aussi un peu le propos de notre émission d'aujourd'hui, justement d'avoir en plus votre regard de Français maintenant complètement immergé dans la vie de Bruxelles et de la Belgique au sens un peu plus large. Parlons aussi un petit peu de votre actualité, parce que du coup, vous êtes aussi complètement maintenant immergé, comme je le disais il y a quelques instants, dans ce domaine de création musicale. Comment va, puisque nous avions eu la chance de vous avoir en novembre dernier pour évoquer votre opéra, cet opéra de chambre, La Lettre Volée. Comment va-t-il? Est-ce qu'il y a des perspectives, en tout cas, de projets de reprise, de continuité? Parce que c'était pas simple aussi de concevoir, d'imaginer, de mettre ensemble et de mettre en forme un tel projet. Est-ce que là aussi, peut-être de l'avoir fait en Belgique, ça vous a semblé plus simple que peut-être forcément en France?
Ouais. Ça, je dois dire, c'était. Je dis pas que c'était facile.
Oui, bien sûr. On sait que c'est forcément problématique, hein, avec tout ce que ça engendre. Hein.
Oui. Mais ça m'a semblé plus simple, effectivement.
D'accord.
Alors, je me suis toujours demandé ce genre de choses, pour être tout à fait honnête, si c'était simplement une vision, une sensation personnelle, j'allais dire psychologique, de ma part, d'avoir ce sentiment, ou bien si c'était vraiment une réalité.
Une réalité.
Voilà, que c'est plus facile à faire ici. Ça, j'avoue que la question pour moi n'est pas encore vraiment tranchée.
J'imagine.
Mais j'ai trouvé ça plus simple parce que, mais évidemment, peut-être, c'était pas du tout une production institutionnalisée. Donc voilà, oui. C'est possible de faire des choses comme ça simplement ici, en Belgique, où on trouve les possibilités, on trouve des acteurs, on trouve des gens prêts à s'engager. Simplement.
C'est peut-être, je retiens aussi le terme, votre terme, quand vous évoquez simplement. Est-ce que c'est pas cette simplicité justement des rapports, cette simplicité d'accueillir, d'écouter l'autre dans sa proposition, dans son projet, et que du coup, on met moins de préalable finalement à entrer en collaboration, si je peux dire.
Oui, tout à fait.
Alors, quelle est votre actualité autrement, Denis Boss, aujourd'hui, les prochains projets?
Mon actualité, là pour l'instant, est plutôt en France, paradoxalement. Avec un projet pour résonance contemporaine.
Mm-hmm, oui, tout à fait.
Ça, c'est un projet. Je vais travailler sur des poèmes, à partir de poèmes de Gerasim Luka. Mm-hmm. Fort intéressant.
J'imagine.
J'ai en projet un madrigal contemporain pour cinq voix, pour l'ensemble Tarentule.
Très bien.
C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et là, c'est un projet d'une assez grande importance avec, à partir d'un texte d'un philosophe et scientifique belge, de liégeois, qui s'appelle Georges Tinès, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle « Les objets vous trouveront ».
Ah.
Voilà. Ça, c'est mes deux prochains projets qui vont m'occuper assez bien pour l'instant.
Et autrement, il y a une actualité belge pour votre musique, sans parler de création, mais éventuellement de reprises.
Il y a des reprises. Magali Richette, une guitariste belge, va jouer une de mes pièces pour guitare prochainement en juin. C'est l'actualité la plus proche pour l'instant.
Ah, très bien. Je vous propose, Denis Boss, puisqu'on parlait de votre musique, là je vais faire référence au trio Fibonacci, justement, et d'abord en vous remerciant d'avoir bien voulu répondre à notre invitation d'aujourd'hui pour cette émission, et puis d'amener votre regard aussi de Français immergé maintenant au sein même de la communauté belge et bruxelloise, d'écouter justement le deuxième mouvement de le chant du funeste. Et là, qui est interprété par le trio du Bonacci. Peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots sur un petit peu sur cette pièce qui est en plusieurs mouvements, le chant du funambule.
Oui, cette pièce-là, c'était une pièce pour violoncelle solo.
C'est ça.
C'est Gabriel Prine, donc le violoncelliste du trio Fibonacci qui joue. ce sont des variations en fait sur un thème, voilà, mais des variations multidirectionnelles, si je peux dire. Voilà, c'est une pièce qui avait été créée à Montréal il y a déjà quelque temps quand même. Ouais.
Très bien. Merci Denis Boss d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Et puis merci pour ce regard et cette analyse aussi, voilà, de votre point de vue à vous, mais je pense que ça correspondait bien à ce qu'on voulait essayer de, en tout cas, de mettre en face des points de vue évoquant ce côté d'impertinence, d'irrévérence, en tout cas d'autodérision aussi que l'on peut trouver en Belgique et comme quoi elle peut être vivifiante en tout cas.
Bon, merci beaucoup à vous.
À très bientôt Denis. Au revoir. Au revoir. Le dernier invité de notre émission d'aujourd'hui, c'est Baudouin de Jarre. Il est né à Alost le 9 mars 1962 en Belgique. Compositeur, musicien, performeur, il est joué par un grand nombre d'ensembles. Je peux en citer quelques-uns, musique nouvelle, l'orchestre de Mulhouse, le quatuor Arditi, les ensembles synonymes. Et puis, bien sûr, un certain nombre de festivals accueillent aussi sa musique, Ars Musica, le Kunst, Clara, Bravo, le festival Loop aussi de Bruxelles, Musica de Strasbourg ou From Berlin, Walt ou DMZ, et puis aussi un certain nombre de festivals à Séoul, en Corée, nous allons pouvoir en parler dans quelques instants avec lui, accueil aussi, puisque c'est le travail avec la Corée fait partie aussi de sa démarche de composition depuis pas mal d'années. Alors, Baudouin de Jarre, bonjour.
Alain Goudin, bonjour.
Merci d'être en liaison téléphonique depuis Bruxelles avec nous. Nous consacrons cette émission de résonance avec nos différents invités. Tout à l'heure, nous avions Zoé Jadoul, journaliste à Radio Campus. Et puis, il y a quelques instants aussi également, le compositeur Denis Boss, français, lui, vivant en Belgique. Mais ce qui nous intéressait un petit peu aujourd'hui, c'était de parler du côté d'irrévérence, d'insolence, d'impertinence, d'autodérision. Enfin, un peu cet état d'esprit qui vous caractérise, nos amis belges, et que peut-être ce fait-là provoque aussi finalement une autre liberté, une autre vitalité à la création artistique belge. Est-ce que vous seriez d'accord, Baudouin de Jarre, avec cette observation, avec ce point de vue ?
Ah, mais je pense que ça dépend des compositeurs. Je pense qu'il y a des compositeurs qui sont plus portés vers, oui, de la dérision que d'autres. Mais disons, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai ce côté-là, mais pas seulement que ce côté-là.
C'est ça.
Mais effectivement, je pense que ça nous caractérise quand même aussi au niveau de tout le travail qui est fait, qui a été fait notamment à Liège au niveau improvisation,
oui,
que ce soit en théâtre, en musique, en général, c'est vrai qu'on a quand même ce côté-là, oui.
Et est-ce que, justement, de votre regard de compositeur aujourd'hui, vous sentez que, aussi, cet état d'esprit donne une certaine vitalité aux effets, aux envies, aux projets qui sont mis en œuvre dans le cadre de la création contemporaine belge d'aujourd'hui ?
Mais moi, je pense que c'est un élan assez naturel,
oui,
qui est parti surtout, je veux dire, de Liège, peut-être moins du conservatoire de Bruxelles, mais c'était, mmh, assez fort à Liège. Mais c'était en même temps inconsciemment une recherche vers des nouvelles formes. Et je pense, par exemple, bon, très personnellement, mais à mon quatuor pour les non-violonistes, j'avais écrit un trio joué par le quatuor Arditi, et j'ai eu une réaction avec l'envie de faire un quatuor à cordes pour quatre non-violonistes. Mmh. Alors on peut prendre pour ça pour de la dérision, mais c'est, je pense, à l'intérieur de soi, une envie de trouver des nouvelles formes et effectivement de toujours se raccrocher au temps présent et donc à la vitalité, bien entendu.
Voilà, c'est ça. Hein. Je crois que ça, c'est une chose aussi importante qui vous caractérise. Et puis, je pense aussi que vous vous êtes aussi investi par rapport à ça et dans aussi le fait, quand vous parliez aussi d'un quatuor à cordes pour des non-musiciens, aussi également toujours, et vous avez toujours été très attentif à faire aussi que la création, les démarches de création soient finalement, au travers de vos différents projets, aussi puissent être abordées par tout un chacun.
Oui, mais dans le cadre du quatuor pour les violonistes, disons que c'était joué par vraiment des excellents violonistes, et des excellents musiciens, mmh, qui ont pris effectivement un violon pour une première fois. Mais donc le résultat sonore était très performant, mais avec un grain, une sonorité assez nouvelle, assez particulière. On ne pouvait pas demander à chaque violoniste de jouer excessivement fort avec des archets de violoncelle, par exemple.
Oui,
alors,
c'est ça.
Alors, ce n'était pas dans l'idée d'avoir une brutalité ou un son vraiment en contresens, etc. Mais c'était l'envie d'un nouveau grain, d'un nouveau son. Mais effectivement, ça a déclenché, cette idée a déclenché l'envie d'agrandir ça et donc de monter des structures musicales où tout un chacun peut venir jouer, mais toujours dans le même rêve, presque la même utopie, qu'on va avoir au bout du compte un son qui va être tout à fait particulier et tout à fait neuf. Alors ça marche dans certains cas, mais pas dans d'autres.
C'est ça.
Donc il y a eu des résultats probants et d'autres non, mais qui s'arrêtent alors au plaisir d'une ouverture, d'un éveil musical pour adultes, on va dire, ou pour les enfants même, oui.
Alors, je voulais rebondir alors, sur une deuxième facette, toujours par rapport à votre démarche d'écriture et de composition, Baudouin de Jarre. Votre itinéraire, finalement, vous écriviez il y a quelques temps que vous le reliez aussi en permanence au feu de la Terre et au mouvement du cosmos. Vous disiez « Je suis toujours passionné par ces grandes antennes qui écoutent les sons de l'univers ». C'est quelque chose qui reste toujours un peu fort pour vous, ça, cette idée-là ?
Mais c'est-à-dire que forcément, sur la planète Terre, on peut quand même se poser certaines questions, bon, qui sont tout à fait banales, on va dire, mais qui sont en même temps continuellement incroyables. C'est qu'est-ce que je fais là sur cette surface, finalement. Là, maintenant, je suis ici à Bruxelles, devant moi, il y a les voitures, le parking. Mais qu'est-ce que c'est cet univers ? On sait par les chercheurs qu'on est là dans le cosmos, mais on sait qu'on est sur une boule quand même, et puis on apprend que cette Terre, elle tourne autour du Soleil, et c'est quand même quelque chose de magnifique. Donc moi, je me suis un peu arrêté là. Je suis dans l'émerveillement d'une seule chose, la Terre qui tourne autour du Soleil avec la Lune, et c'est déjà quelque chose de vraiment passionnant. Donc je ne cherche pas, si je puis dire, à en savoir plus. Et donc c'est vrai que je suis toujours là-dedans, et que dans mes compositions, il y a toujours une petite anecdote par rapport à ça, quoi.
Et puis, je voulais évoquer, mais ce qui montre aussi, quand on parlait justement de cette ouverture multiple qui est peut-être caractéristique un peu de ce qu'on sent aussi en Belgique, en tout cas de cet état d'esprit, et pour montrer aussi cette autre facette d'ouverture, il y a aussi que vous êtes très intéressé, alors il y a plusieurs raisons à cela, mais par exemple avec la Corée, avec ne serait-ce que parce que votre compagne est une chorégraphe coréenne, mais en même temps, vous avez écrit pour des instruments coréens, vous travaillez aussi souvent avec l'Orchestre national de Corée. Donc, il y a une ouverture aux esthétiques très large aussi de votre part.
Oui. En fait, un tout petit mot là-dessus, c'est que j'ai écrit au départ, à partir de 86, des pièces qui étaient excessivement denses, c'est-à-dire avec beaucoup de matière, oui. Notamment une pièce pour orchestre avec un maximum de matière. Oui. Après ce travail-là, j'étais fort occupé par la création d'un centre artistique à Bruxelles, ici, la Maison de la Création, et n'ayant moins de temps, j'ai commencé à réduire une série de mes compositions de façon monodique pour avoir une sorte d'ADN d'énergie sonore, donc des pièces pour orchestre réduites, si je veux dire, quasi de façon monodique. Des quatuors, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a donné des pièces pour piano, des pièces pour violon. Mais quand je travaille sur les pièces pour violon, j'ai commencé à aller de plus en plus loin dans ce travail en réduisant le nombre de notes, en désaccordant le violon, en faisant beaucoup de vibrato, en vibrant de l'autre côté du chevalet. Et finalement, par le hasard des choses, je suis tombé sur un disque de musique coréenne pour Kayagum et je me suis rendu compte que c'était finalement
très proche.
Cet instrument-là que je me dirigeais dans mon travail pour violon. C'était une coïncidence incroyable. Grâce à mon épouse, j'ai rencontré Ham Pyong-gi, qui est vraiment le maître du Kayagum. Et en allant à l'université de Séoul, une jeune fille qui avait travaillé mes pièces pour Kayagum m'a fait rencontrer un autre instrument, le Komungo. Et donc maintenant, je suis vraiment quasi non-stop occupé à travailler sur cet instrument qui devient presque quasi symbolique, qui devient presque une sorte d'aspirateur d'aspiration et d'inspiration, et dans lequel je focalise tous mes rêves musicaux pour l'instant.
Donc, ce qui me permet de dire à nos auditeurs que la petite brève musicale qu'ils ont entendue depuis le début de cette émission, c'est de vous, Baudouin de Jarre, et c'est un extrait de Héros J, justement. Voilà, et qui va tout à fait en lien. Donc, cette petite virgule de 41 secondes que vous avez entendue à plusieurs reprises dans l'émission, chers auditeurs, eh bien voilà, c'est ce que vient de nous faire part Baudouin de Jarre, donc de cette autre facette aussi de son travail et de son écriture. Et donc j'étais ravi aussi qu'on puisse faire entendre et découvrir par ce biais-là une petite facette de votre écriture, cher Baudouin.
Ah mais ça fait plaisir, merci beaucoup. Et je pense que ce que je viens de commenter maintenant se met en phase avec ce que vous avez entendu, chers auditeurs.
Bon, bah écoutez, Baudouin, merci. En tout cas, on espère que voilà, ces différents points de vue que nous avons comme ça accueillis dans notre émission voilà, contribuent à faire entendre qu'il y a toute cette vitalité, cette impertinence, cette peut-être des fois insolence, et puis tous ces autres côtés. Comme vous vouliez de le dire, en tout cas, un esprit d'ouverture très large. Peut-être qu'on a moins un peu l'habitude de percevoir chez nous aujourd'hui.
Oh, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est un tout grand merci, en tout cas, que je puisse participer à cette émission. Et vous me parlez d'ouverture, mais je tiens à renvoyer la balle en disant que je pense Résonance Contemporaine est vraiment, à ce point de vue-là, vraiment très ouvert aussi. Donc, je suis vraiment ravi de participer à votre monde, vraiment, et à votre écoute, quoi. votre ouverture, oui, absolument.
Merci Baudouin. Donc on se dit à très bientôt, dans le cadre de notre émission. Et puis bonne continuité à vous. Au revoir.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Nous arrivons au terme de cette émission où nous avons pu essayer d'approcher, de parler, d'évoquer ce côté d'irrévérence, d'impertinence, d'autodérision de nos amis belges et combien peut-être cette attitude peut être vivifiante aussi pour nous et pour notre réflexion aussi ou nos manières d'être françaises. En tout cas, de percevoir une autre vision de nos amis belges au travers de la pertinence des propos de nos trois invités d'aujourd'hui, Zoé Jadoul, Denis Boss et le compositeur et l'autre compositeur Baudouin Dejarre. Cette émission donc a été réalisée comme d'habitude avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée à vous sur Radio B.